Chapitre 25. Le monde voilé. Au cours des 10 ans qui avaient suivi l'explosion de Jupiter et le dégel de ses satellites, personne ne s'était occupé d'Europe. Et puis, les Chinois en avaient effectué un rapide survol, sondant les nuages au radar pour tenter de retrouver l'épave du Tien. Ils avaient échoué, mais leurs cartes de la face diurne furent les premières à indiquer l'emplacement des nouveaux continents qui émergeaient à mesure que la couverture de glace fondait. C'était également eux qui avaient découvert une ligne droite de 2 kilomètres qui avait l'air si artificielle qu'ils l'avaient baptisée la Grande Muraille. À cause de sa forme et de sa taille, on supposait que c'était l'un des monolithes ou un monolithe, puisque des millions avaient été reproduits dans les heures précédant la création de Lucifer. Ce survol ne provoqua pas la moindre réaction, le moindre signe interprétable au-dessous des nuages de plus en plus épais. Quelques années plus tard, en conséquence, des satellites d'observation furent placés en orbite permanente autour d'Europe et des ballons de haute altitude lâchés dans l'atmosphère pour étudier le schéma de ces vents. Les météorologues terrestres s'y intéressèrent vivement parce que Europe, avec son océan central et un soleil qui ne se couchait jamais, présentait un modèle remarquablement simple pour leur manuel. Ainsi avait débuté le jeu de la roulette européenne, comme l'appelaient les administrateurs inquiets chaque fois que les savants proposaient de se rapprocher du satellite. Après 50 ans sans incident, le jeu devenait quelque peu lassant. Le capitaine Laplace espérait qu'il n'y aurait cette fois pas davantage de conséquences, et il exigea du professeur Anderson les promesses les plus solennelles. « Personnellement, dit-il au savant, je n'apprécierais guère de recevoir une tonne de ferraille perceuse à 1000 à l'heure. « Je suis très étonné que le Conseil mondial vous ait donné son autorisation. » Le professeur Anderson en avait été un peu surpris, lui aussi, mais sans doute aurait-il compris s'il avait su que son projet était le dernier article de la liste d'une sous-commission scientifique à la fin d'un vendredi après-midi à l'emploi du temps surchargé. L'histoire est ainsi faite de petits détails.
« Je suis entièrement d'accord, capitaine, mais nous opérons dans le cadre de limites très strictes. Il n'y a aucun risque de déranger les Européens, quels qu'ils soient. Nous visons un objectif situé à 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer. »
« C'est ce qu'on m'a dit. Qu'a-t-il de si intéressant, le mont Zeus ?»«
Cette montagne est un mystère absolu. Elle n'existait même pas il y a quelques années. Alors, vous comprenez bien qu'elle affole les géologues. »
« Et votre gadget va analyser ce mystère quand il la pénétrera. »«
Exactement. Et, je ne devrais vraiment pas vous dire ça, on m'a prié de garder les résultats secrets et de les transmettre sur Terre en code. Il est évident que quelqu'un est sur la piste d'une découverte importante et veut s'assurer qu'il ne s'en fera pas souffler l'honneur. Auriez-vous imaginé que des savants puissent être aussi mesquins ?»
Le capitaine Laplace l'imaginait sans peine, mais il ne voulut pas désillusionner son passager. Le professeur Anderson lui paraissait d'une naïveté touchante. Quoi qu'il se passât, et le capitaine était maintenant bien certain que cette mission était moins innocente qu'elle ne le paraissait, Anderson n'était pas au courant. « J'espère simplement, professeur, que les Européens ne sont pas des alpinistes enthousiastes. » « Je serais désolé d'interrompre toute tentative de planter un drapeau sur leur Everest local. » L'ambiance était inhabituellement tendue à bord de Galaxy quand le pénétromètre fut lancé, et même les plaisanteries salaces s'étaient faites plus discrètes. Pendant les 2 heures que dura la longue chute de la sonde vers Europe, presque tous les membres de l'équipage trouvèrent un prétexte plausible pour se rendre sur la passerelle et observer l'opération de guidage. Un quart d'heure avant l'impact, le capitaine Laplace dut en interdire l'accès, sauf à Rose, la nouvelle hôtesse de bord, qui fournissait inlassablement des bulles d'excellent café sans lesquelles l'opération n'aurait pu se poursuivre. Tout se passa à la perfection. Bientôt, après l'entrée dans l'atmosphère, les freins aériens furent déployés et ralentirent le pénétromètre jusqu'à une vitesse d'impact acceptable. L'image radar de l'objectif, neutre, sans indication d'échelle, grandissait régulièrement sur l'écran. À moins 1 seconde, tous les enregistreurs se mirent automatiquement en marche à grande vitesse. Mais il n'y eut rien à enregistrer.
« Maintenant, je sais, »
dit tristement le professeur Anderson,
Ce que l'on a éprouvé au Jet Propulsion Laboratory quand les premiers Rangers se sont écrasés sur la Lune, avec leur caméra aveugle.